wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomas. Son réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Fabienne Pascoe et non pas Pascal Fabio. Ça n'irait pas du tout. C'est bien Fabienne Pascoe hein, qui est là. Lucille Como et Guillaume Thion pour parler ensemble de Boris Godounov de Mussorgsky, dirigé en alternance hein, par Vladimir Jourovski, Damien Iorio. Mise en scène Ivo Van Hoeft à l'Opéra Bastille, Don Pasquale et de Donizetti, dirigé par Evelino Pido. Mise en scène Damiano Micheletto, c'est au Palais Garnier. Et puis Les Petites Michues d'André Messager, dirigé par Pierre Dumousseau. Mise en scène Rémi Barchet, c'est au Théâtre de l'Athénée. Louis Jouvet, Boris Pinault est là pour nous donner à entendre des commentaires ou questions que vous pourriez avoir à formuler via Facebook ou Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour les expositions Codé, Le Monde et Ryoji Ikeda. C'est dans l'événement Mutation Création 2 jusqu'au 27 août au Centre Pompidou à Paris. Nous ouvrons cette émission avec les débuts du metteur en scène Ivo Van Hoeft à l'Opéra de Paris, où il reviendra d'ailleurs dès la saison prochaine pour Don Giovanni. Le Belge avait déjà proposé des mises en scène lyriques dans son pays, mais aussi au Théâtre Royal de Madrid ou à l'Opéra de Lyon, mais pas encore dans la capitale française. C'est chose faite avec Boris Godounov, opéra de Modeste Mussorgsky, basé sur le drame du même nom d'Alexandre Pouchkine, qui relate le règne tragique de ce tsar, de son accession au trône jusqu'à sa mort. Alors, il existe, c'est un peu curieux, mais deux versions authentiques. La version originale de 1869, présentée pour la première fois en 1928, et puis une version qui avait été très largement révisée, créée en 1874 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. C'est celle de 1869, qui est actuellement présentée à Paris, et que l'on peut voir aussi en ligne sur Culture Box jusqu'au 6 septembre. Le choix cette version est assumée par Ivo Van Hoeft, on va en parler, parce qu'il la trouve plus politique, plus dramatique, et aussi que sa durée permet de se passer d'un entracte pour proposer un spectacle plus immersif.
Спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царствовать по праву будешь. А твой наследник, как сын первородный,
Стой на страже борцом за веру правую.
Fête de la musique, plus Coupe du Monde en Russie, égale Boris Godounov, donc dans cette émission ce soir. Comme on a profité pour une fois d'avoir un long extrait de cette production, peut-être commencer par le volet musical. Guillaume Thion, est-ce que c'est votre tasse de thé, Moussorgski ?
Oui. Mais en parlant justement de cet extrait qu'on vient d'entendre, ce qui était surtout ma tasse de thé dans ce spectacle, c'était donc la présence de Alexander Tsimbaliuk, que j'ai vu pour sa première, donc la semaine dernière, et qui était extraordinaire. Voilà comme on a pu l'entendre, c'est bien lui qu'on a entendu.
Absolument, voilà. C'est bien lui.
Voilà, c'est une distribution en alternance avec Ildar... Rappelez-moi son nom.
Oui, si je l'avais sous les yeux, ce serait quand même beaucoup mieux pour vous le rappeler.
Tout à fait.
Alors attendez, Boris Pino l'avait aussi, bon. Allez, match nul.
Voilà, donc...
c'est ça qui domine pour vous.
Voilà, Tsimbaliuk qui était extraordinaire. Bon, là, on parle de musique, donc...
Oui.
Après, si on parle de fausse, il y a évidemment la conduite de la direction de Vladimir Jurovski, qui a donc conjointement avec Ivo Vanov décidé de choisir la première version, c'est le 1869, qui a un orchestre plus réduit, qui est plus rugueuse, qui lui manque un acte par rapport à la version de 1872, qu'on appelle l'acte polonais, et dont la fin aussi est complètement différente. La fin, normalement, se termine avec une sorte de révolution, de prise de pouvoir du chœur, qui disparaît. Le chœur n'est présent qu'au début, il n'est pas présent forcément à la fin. En tout cas, pas autant de grandes démonstrations. Et musicalement, ça s'en ressent. Et la façon dont Jurovski aussi le conduit est extraordinaire parce que, effectivement, les tonalités sont plus sombres, plus mates. C'est ce qu'on lit dans les dossiers de presse, c'est ce qu'on lit dans les papiers. J'ai moi-même écrit ça. Mais effectivement, c'est pas un cliché. C'est vrai. C'est-à-dire que voilà, il transforme cette musique en une, en plus, il y a beaucoup d'ostinato, donc c'est très fluide, c'est très pâteux, et en même temps, c'est extraordinairement sombre, et dans tout ça, il y a deux, trois effets qui sont formidables, notamment le tuba à la mort de Boris Godounov. L'explosion du tuba est démente, quoi. Donc, j'ai réécouté toutes les versions que je connaissais, donc c'est Abado, Gergiev, etc. Et ce tuba-là, c'est pour moi le gros point musical de cette version. C'est-à-dire d'avoir réussi à marier tant de contrastes sur un squelette de musique pour arriver à une mort pareille. Et après, dans la voix, il y a l'incarnation aussi sur scène de Tsimbaliuk, qui chante très très bien, mais qui, dès qu'il arrive, on le sent très investi, notamment dans la scène d'autocritique avec son fils qui est très bien.
Lucille Comeau, musicalement, là encore, pour un premier tour de table.
Oui, c'est, on peut pas parler de la musique sans parler, en effet, du texte, parce que c'est très, très particulier comme œuvre. En effet, Guillaume le disait, il y a quelque chose de très âpre, d'assez... En fait, il y a quelque chose d'assez austère et en même temps de foisonnant dans la partition. Donc, ça donne quelque chose où on est constamment très très investi en tant que spectateur et en même temps un peu à la lisière de l'ennui. Moi, ça me fait un peu cet effet-là. Et je trouve que moi, j'ai vu aussi Alexander Timbaliuk. Bon, c'est dommage, on a vu tous les trois le même chanteur, alors que je sais que c'est pas lui qui chante la plupart du temps à l'Opéra Bastille, mais il est absolument incroyable. Il a une voix de basse qui est vraiment capable de toutes les nuances. Bon, là, on entendait plutôt piano dans l'extrait qu'on a entendu, mais aussi d'exploser dans des sortes d'accès de cruauté. Enfin, il arrive à vraiment effrayer le spectateur par la voix. Toutes les basses, de manière générale. Bon, il faut dire aussi que du coup, comme l'acte polonais n'est pas représenté, il y a très, très peu de femmes. Et non seulement il y a très peu de femmes, mais les rôles de femmes, musicalement, sont extrêmement réduits. Donc, il y a un grand air de Evdokia. Non, ça, c'est le fils, en fait. De Ruzan Matashayan, qui du coup est la soprano qui joue la fille du tsar, et qui a un petit air un peu comptine qu'elle fait extrêmement bien. Ça fait une sorte de bulle d'air au milieu d'un très très long continuum de voix masculine et beaucoup de basses qui sont toutes très belles, avec des récitatifs, des longs monologues qui n'en finissent plus de s'étaler sur la musique de Moussorgski, ce qui donne vraiment une lourdeur que moi j'ai aimée, y compris, même si en effet La mise en scène contribue peut-être à apesantir cette version qui est déjà assez ardue.
Alors, on y vient dans un instant sur la dimension scénique de cette production. Dire qu'en effet, c'est votre cas aussi, Fabienne Pascoe, vous avez entendu Alexander et vu Timbaliuk, mais que sur la captation que moi j'ai vue sur Culture Box, c'est l'autre chanteur, c'est Ildar Abdrazakov, les internautes peuvent découvrir jusque début septembre. Fabienne Pascoe, impression générale, musicale, là encore.
Mais moi, c'était la première fois que je voyais et que j'entendais, même, soyons honnêtes, cette version de 1869, effectivement très âpre, très noire, et le fait qu'il n'y ait pas d'entracte et que ça soit une version resserrée, on a l'impression de rentrer dans l'âme de Boris et que c'est une grande plainte tout au long, 2 heures durant, et ça, j'ai été bouleversée par ça, que c'était accentué en plus par la direction de Jurovski, qui connaît vraiment ce répertoire par cœur. On avait l'impression, c'est vrai que Boris Godounov, c'est une œuvre un peu sacrée, tellement russe. Là, c'est dirigé par un russe, chanté par un russe, et on a vraiment l'impression de pénétrer dans la slavitude d'une âme rongée de mauvaise conscience. Enfin, on est là, dans un climat presque de prière, et j'ai trouvé ça bouleversant.
Guillaume Durand, vous vouliez ajouter quelque chose en écoutant Fabienne ?
Ben oui, c'est tout à fait ça. C'était aussi le sens du papier que j'avais fait le lendemain après le spectacle. C'était ça, c'était Godounov sauvé par les siens. Parce que, après, on va parler de la mise en scène. La mise en scène de Vonov est quand même à deux vitesses. Je trouve qu'il y a des choses très réussies, d'autres beaucoup moins. Et ce qu'on a, on a vraiment l'impression qu'il jouait à domicile, et pour rester dans le foot. Et justement, Jurovski plus le cast russe avec ce combat de basse, c'était, oui, il y avait un côté solennel, plus les 2h10 de spectacle sans entracte, resserré, mais pas forcément resserré, parce que Don Pascoe, elle a à peu près les mêmes longueurs avec un entracte au milieu, donc c'est vraiment aussi une volonté, ils auraient pu couper.
Bien
et
sûr.
Tout ça faisait une sorte de cérémonie, notamment avec un démarrage en plus très très mystique qui était assez unique.
Alors quelques images, allons-y Fabienne Pascoe, sur cette entrée de d'Ivo Vanov à l'Opéra de Paris avec ce décor, cet escalier central, on décrit un peu ce qu'on voit.
Voilà, alors il y a juste un escalier pour signifier le pouvoir, un énorme escalier rouge.
D'abord noir
et ensuite rouge. Et il y a la présence de chœurs, alors ils sont très très nombreux, plus d'une centaine, je crois 120, et qu'Ivo Vanov, selon son habitude, filme en vidéo souvent, donc on les voit, on peut voir, ça redope encore la présence de ces chœurs. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, parce qu'elle est centrée sur l'essentiel, à savoir, comme souvent chez lui, le pouvoir. pouvoir, les problèmes du pouvoir, avec quelques envolées et quelques libertés qu'il prend. Hein. La fin que je ne révélerai pas, mais bon, c'est sans doute une liberté qu'il prend avec le livret.
On a envie d'en parler quand même.
On a envie d'en parler.
On n'a même pas raconté l'histoire de départ.
Si, c'est l'histoire d'un règne.
Oui, d'accord, mais bon, c'est pas ce qui me perturbe.
Non.
Pour la raconter brièvement,
parlons de cet enfant,
j'espère en ne me trompant pas, c'est... Boris Godounov, c'est donc 1598-1605.
Bravo.
Qui a été, c'est le premier tsar élu, donc ça a un sens aussi. Il a été élu par les boyards. Et on va assez vite l'accuser, ce qui finalement est faux, je crois, après avoir lu le programme, d'avoir assassiné le fils du tsar précédent et un jeune garçon. Donc l'image de cet enfant assassiné, le tsar précédent, c'est Ivan le Terrible, donc c'était pas
un enfant de cœur.
Voilà. Et qui avait lui-même tué certains de ses enfants. Et donc, il est hanté par cette culpabilité. C'est de ça dont il va mourir, sans doute, à la fin. Un petit peu, là, c'est la figure de Macbeth, presque, parce qu'il est obsédé, il a des hallucinations, il voit cet enfant. Et quand le spectacle commence, quand l'opéra commence, on voit en effet un enfant qui court et qui va disparaître, qui va disparaître dans l'escalier, qui commence par une trappe, l'escalier qui monte. Et donc, c'est la mort de cet enfant. Et à la fin, on peut imaginer que le fils de Boris va mourir aussi. Donc ça veut dire que l'imposteur qui prend la place de Boris et en quel le peuple croit, eh bien, finalement, il va aussi se rendre coupable de tuer un enfant. Donc, au royaume des politiques, il n'y a pas personne
pour
ne rachète
l'autre.
Hein. Oui, voilà.
Guillaume Thion, d'accord avec cette lecture.
Isvinitié et pas Jalsta Fabienne, mais pour moi, il a fait tuer le fils du tsar, et effectivement, ça le ronge.
C'est pas ce que dit l'histoire, c'est Pouchkine qui dit ça.
Oui, bien sûr,
voilà,
mais je pense que ça reste. C'est pour ça que l'autre, le Grégoire est considéré vraiment comme un imposteur. Et c'est amusant parce que lui-même est un imposteur, parce qu'il a été élu sur de mauvaises bases. Et ensuite, il est perturbé par l'arrivée d'un autre imposteur qui se dit être le fils du tsar, qu'il n'a pas été élu sur de mauvaises bases,
parce qu'il a l'air d'être plutôt libéral et plutôt sympathique.
Ça, c'est sûr, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans sa façon, dans sa conduite, on va dire. Excuse-moi.
C'est mieux dans le micro.
Voilà. Dans ses intentions, il y a effectivement une dualité entre les réformes qu'il veut faire et la façon dont il y arrive ou pas avec le peuple, ce qui fait le cœur de cette espèce de grande scène, on va dire, des états d'âme du tsar. Mais quand je dis qu'il est élu sur de mauvaises bases, c'est-à-dire que a priori, si cet enfant n'avait pas été assassiné, il ne serait pas là. Et a priori, il est partie prenante dans ce premier assassinat qui lui revient ensuite en contre-coup au final avec l'imposteur, qui est un vrai imposteur, puisque cet enfant, enfin l'enfant le tsar a été enterré, donc il ne peut pas être en même temps Grégoire et avoir été vu par la foule mort, ensuite porté dans un cercueil, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment Boris Godounov, c'est vraiment l'ambiguïté de cette figure qui est vraiment marqué des deux tendances, c'est-à-dire la tendance sanguinaire, arriver à ses fins à tout prix, arriver au pouvoir, et en même temps le faire pour une volonté plutôt charitable, secourable vis-à-vis de la population qui par ailleurs l'a élu, et essayer d'engager des réformes et de faire en sorte que cette lignée, parce que Ivan le Terrible n'est pas très très loin, c'est la grande descendance des tsars fonctionne.
Vous voyez, moi je ne l'ai jamais senti coupable, mon cœur de jeune fille, non. J'ai toujours pensé qu'il était innocent.
Ah, si, moi,
alors, on va faire rentrer Lucide Comeau dans la danse et dans cette vision que propose Ivo Vanov.
Non, mais c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est qu'on sait absolument rien. Et si l'action tourne autour de quelque chose, c'est vraiment autour d'un vide. Et d'ailleurs, il est figuré sur la scène avec cette trappe sous l'escalier qui parfois est ouverte et parfois fermée. C'est un texte, comme souvent Pouchkine et comme plein d'autres auteurs après, derrière lui, et Dostoïevski le premier, d'auteur russe, travaille vraiment le fait autour. C'est-à-dire que ça tourne en permanence par des formes de digression qui sont de l'ordre, pour le coup, musical. Mais il y a des personnages qui apparaissent d'un coup, dont on ne comprend comprend pas exactement l'importance sur le coup. C'est le cas de l'innocent, par exemple, ce personnage dont on peut croire que en fait c'est un double d'un premier personnage, d'un jeune prêtre qui est là dans le premier tableau. Il y a comme ça des doubles, des personnages dont on ne comprend pas tout de suite l'importance, et tout ça tourne autour d'une révélation qui en fait n'a pas tellement d'importance. Et la fin, elle est totalement indécidable. Et je pense que c'est ça qui passionne Yves Auvenneuve. Donc sa mise en scène, elle ressemble vraiment beaucoup à ce qu'il fait par ailleurs, c'est-à-dire fasciné absolument par le pouvoir, par les affres du pouvoir. Il y a à la vidéo en effet des plans extrêmement lents. En fait, on croit que c'est des photographies, mais non, ce sont des films, puisque ce sont des films mais extrêmement lents, ou des chœurs, donc des plans d'ensemble, ou de plans très larges du visage de Boris Godounov. On est vraiment dans la tête de Boris Godounov. Je crois que les vidéos devaient être en direct au départ, c'était prévu avec l'Opéra de Paris, et avec tous les travaux qui ont eu lieu, non, il dit non, Guillaume.
En fait, justement, j'ai lu ça aussi, et j'ai téléphoné tout à l'heure à l'Opéra de Paris, ils m'ont dit qu'il n'avait absolument aucun lien.
Parce qu'en effet, c'est très heureux justement que ça ne le soit pas, l'espèce de décalage qui existe entre cette espèce de tourbillon d'informations, de paroles qu'est l'opéra de Moussorgski et l'extrême lenteur de l'évolution des images. Bon, ça m'a fait aussi penser au travail de Bill Viola sur Tristan et Iseut, parce que c'est un peu le même type d'utilisation de la vidéo à l'opéra. C'est vraiment très réussi. Et moi, la fin, vraiment, avec ce tuba, en effet, et ce geste final qui n'est pas au livret et que Yves Auvenneuve a ajouté, m'a vraiment laissé totalement glacé. Il y a vraiment un côté, c'est d'une froideur quand même, ce Boris Godounov par Yves Auvenneuve, ça fait un peu froid dans le dos.
Est-ce que ça a fait froid dans le dos à nos auditeurs, Boris Pinault ?
Eh bien, Florian Dintilhac écrit sur une mise en scène sans dramaturgie, mais une superbe distribution, dominée par un Abdrazakov d'une grande palette de sentiments. Jurovski tient son pari d'un son ascétique, atypique chez Moussorgski.
Bon, donc deux bons Boris Godounov. Vous voulez ajouter Fabien Pascaud ?
J'en profite pour dire que les amoureux de Yves Auvenneuve peuvent le retrouver au Théâtre National de Chaillot, où on reprend les tragédies romaines du 29 juin au 5 juillet. Les tragédies romaines à partir de trois drames historiques de Shakespeare, c'était magnifique.
Vous avez absolument raison de signaler 5 ou 6 heures de bons spectacles.
5h45, je crois.
5h45, bon, ce sera effectivement à Chaillot. Et puis Yves Auvenneuve, il sera un peu plus tard à Avignon avec un spectacle qui viendra évidemment à Paris et dans d'autres lieux. Pardon. Boris Godounov, en tout cas, cette production signée pour la mise en scène Yves Auvenneuve, on peut la voir jusqu'au 12 juillet à l'Opéra Bastille. On peut donc la voir aussi en ligne sur Culture Box jusqu'au 6 septembre. À suivre dans la dispute Don Pasquale et les Petites Michues.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la musique, fête de la musique oblige, avec une autre production de l'Opéra de Paris au Palais de Garnier, cette fois Don Pasquale, un opéra bouffe en trois actes composé par Gaetano Donizetti sur un livret de Giovanni Ruffini, joué pour la première fois en 1843 au Théâtre Italien de Paris. Alors, il semblerait qu'il y ait une opportunité pour Donizetti à ce moment-là, donc il l'a composé en 11 jours, ce qui n'a pas empêché un immense succès mondial immédiat et jamais démenti depuis. Direction assurée par Evelino Pido et mise en scène Damiano Micheletto. On écoute un extrait de cette production.
Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, oh mio cielo, imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo al modestà. E la coppia sciagurata, oh mio cielo, imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo al modestà. Senza perdere un momento, conduciamo al modestà. Senza perdere un momento, conduciamo al modestà. Io ti dei sentiti un poco, noi due soli andiamo sul loco. E il boschetto ci appossiamo, noi due soli ci appossiamo, e dal tempo ci mostriamo. E tra preghi, tra minacce, da pentir la umanità. Ci facciamo le due promette che
facciamo due promettere che la cosa resterà. Ci facciamo due promettere che la cosa resterà. Ci facciamo due promettere che la cosa resterà. E si fa col scioglimento, poco appena il tradimento.
Riflettete, mia sorella,
vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può far.
È un affare delicato, 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 vuol bene esser ponderato, ponderato, ponderato.
Ponderate, esaminate, ma e mia casa non la può, no, no.
Uno scandalo farete,
non importa,
e vergogna poi avrete,
non importa,
non con non sta. Altro modo cercherò.
Non sta bene, non conviene, ma lo schiaffo qui resto. Io direi
l'ho trovata, benedetto,
dite questo.
E lo schetto quanti già possiamo, fino ad un po' dir possiamo, se costanti, tradimento, la cacciate su due piedi.
Bravo, 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 che benone, son contento, che benone, son contento, son contento. Bravo, 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 contento. Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina. Già, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutto in un punto l'hai da scontar. Vedessi giovine a reagire in camera, sono gli stelle di sostenere la camera, vedessi giovine, vedessi giovine, sono gli stelle di sostenere la camera, voglio prendere la mia rivinci, voglio prendere la mia rivinci, che sono una trappola da restar, ci sono una trappola da restar, e mia vendetta già t'ha raggiunto, tutto in un punto l'hai da scontar, tutto in un punto l'hai da scontar, tutto in un punto l'hai da scontar.
Voilà pour cet extrait de Don Pasquale et en ce moment à l'affiche du Palais Garnier. Lui aussi à voir, c'est ce que j'ai fait sur Culture Box. C'est jusqu'au 18 septembre. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, mais quand on est vieux et qu'on est riche, on a peut-être envie de se marier, mais c'est peut-être forcément une bonne idée. On va dire que c'est le point de départ de ce Don Pasquale qui m'a semblé à le regarder et mais à l'écouter dans cet extrait aussi bien poussif. Commencez de la salle, Lucille Comeau.
Alors, je n'étais pas dans la salle non plus.
Ah oui, vous l'avez vu aussi,
je l'ai vu aussi sur Culture Box.
Ah, nous partageons cette vision.
Voilà. Alors, moi, je vois quelque chose qui, en effet, que je ne connaissais pas. Je crois que c'est une entrée, d'ailleurs, je le connaissais à l'oreille, mais je l'avais vu représenté. Et je crois que c'est une entrée au répertoire parisien. Ce qui est étonnant, en effet, puisqu'apparemment, c'est un des grands succès de Donizetti. Alors, moi, je vois une petite chose. C'est un opéra assez court. Il y a, en effet, quatre grands rôles et deux rôles qui sont, un à quelques lignes, mais l'autre est muet, avec des types extrêmement radicalisés dans le type. Donc, il y a, en effet, Pasquale, qui est le Barbon par excellence, Ernesto qui est son neveu, un jeune homme romantique et plein d'idéaux, il y a Norina qui est une femme extrêmement autoritaire et exubérante, et puis il y a le docteur qui est le personnage de manipulateur et qui tire les ficelles de tout ça. Donc on est vraiment dans la commedia dell'arte classique, très premier degré. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de ce livret-là? Bon, Micheletto, on l'a beaucoup vu, moi j'aime pas trop ce qu'il fait, son barbier de Séville, il me fatigue un peu.
Horrible.
Bon, il y avait Sanson et Dalila dont on avait dit, je crois, vraiment beaucoup de mal ici. Là, je trouve que ça lui va plutôt bien quand même, notamment quand ça commence, je trouve que le décor est vraiment réussi. Donc, sur scène, il y a tous les éléments d'un décor intérieur, donc domestique, sans les murs. Donc on a comme les arêtes d'une maison avec des portes qui ouvrent dans le vide sans mur autour, et puis un canapé, une voiture, une petite cuisine. Et le tout change évidemment quand Norina devient la femme du Barbon et qu'elle fait tout rénover et que ça devient un décor de nouveau riche, type, avec des choses extrêmement clinquantes. Je trouve ça plutôt pas mal, d'autant que pour une fois chez Micheletto, on a l'impression que ça peut circuler, il n'y a pas 3 milliards de choses sur la scène. Et on, voilà, les acteurs circulent dans les espaces, je trouve ça plutôt pas mal. Le problème, c'est que c'est comme d'habitude, c'est vraiment, il en rajoute. Il y a cette espèce de réflexe, je pense que c'est un manque de confiance dans l'œuvre, et c'est assez étonnant que Micheletto fasse autant de mise en scène d'opéra, parce que je ne suis pas sûre qu'il aime tant ça. On a l'impression qu'il ne fait pas tellement confiance aux œuvres. Donc là, il y a ajout notamment de vidéos, à nouveau, qui sont vraiment, à mon avis, pas très heureuses, puisqu'il y a un fond vert qui est installé sur la scène, avec des passages filmés sur fond vert, et donc en incrustation en fond de scène, qui ne servent, à mon avis, absolument à rien. De la même manière, à la rare apparition du chœur, qui est quand même un moment assez agréable musicalement, il rajoute une sorte de jeu de marionnettes, avec donc trois marionnettes qui imitent les protagonistes de l'histoire, qui, pareil, à mon avis, ne servent à rien. Et puis, moi, me pose vraiment, mais on va en reparler, un gros problème de direction d'acte. Actrice, j'allais dire, sur toujours les femmes. Bon, sur Dalila, c'était catastrophique. Il avait fait de Dalila une sorte de midinette en nuisette en permanence, alors que, en plus, la cantatrice n'avait pas du tout ni la voix ni le corps pour qu'on lui fasse ça. Et là, à nouveau, on a une Norina avec une robe ultra fendue dont on voit que les jambes. Alors, je sais pas ce que ça donnait de la salle.
Hein, la poitrine.
Dans le film, voilà.
Et qui déshabille plusieurs fois.
Et hein. Voilà. Et en fait, bon, elle a une voix absolument magnifique. Nadine Sierra, le personnage, il est ultra outré. De toute façon, ce n'est pas la peine de rajouter ça. Voilà, c'est vraiment dommage.
Fabienne Pascaud, votre sentiment ?
Oui, j'ai eu un peu la même impression que Lucille. J'ai trouvé ça vulgaire, moi, j'ose le dire. Je suis pas éblouie non plus par l'œuvre. On retrouve un peu Rossini en permanence, on y pense, en tout cas, même dans l'intrigue avec le barbier de Séville, le vieux Barbon qui veut s'offrir une jeunette, et puis bon, ça va mal se tourner pour lui. Les personnages, je trouve qu'ils sont plutôt outrés, je trouve les voix, en ce qui me concerne, inégales, et puis et même la direction est un peu pataude. Non, j'ai trouvé ça, je n'ai pas du tout été réjouie. Et là, pour le coup, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'entracte, ça aurait été peut-être plus vite.
Oui, mais sur le décor d'en parler, Lucille Comeau, parce que c'est vrai, si on se souvient du Barbier de Séville, pour être chargé, c'était chargé. Bon, il a un goût des voitures. Ça, il ne peut pas s'en passer. Il faut mettre des vieilles voitures sur le plateau. Vous l'avez trouvé, vous, plus aéré ? Enfin,
oui,
c'est vrai que cette structure de maison...
C'est vrai que par rapport à ce qu'il fait, mais ce n'est pas neuf. Hein, on a vu ça 20 000 fois. Donc, on ne peut pas dire qu'il a eu l'idée de recréer une maison dont on voit l'espace. Tout le monde a fait ça 20 fois avant lui. Mais c'est là, moi, je pense, moi qui suis plutôt du théâtre, comme ces metteurs en scène d'opéra sont toujours à la ramasse. Quoi. Ils viennent souvent en retard, avec des interprétations, des volontés d'interpréter, d'incarner par exemple le ténor qui est habillé en rappeur avec une casquette derrière la tête.
Ça fait pitié, oui.
Oui, ça fait tout à fait pitié. Pourquoi, quoi ?
Oui.
Pourquoi ?
Il n'y a pas vraiment non plus, on va dire, la prestance pour cela non plus.
Enfin, ni la voix d'ailleurs.
Bon, on en reparle. Guillaume Thion sur Damiano Micheletto.
Alors, je pense que c'est un garçon qui a la passion de l'immobilier. En fait. Parce que pour Samson et Dalila, il nous avait fait un magnifique premier étage.
Mais c'était pas mal, encore une fois. C'est juste que...
Mais moi, par exemple, j'ai bien aimé, on va dire en touriste, la scénographie du Barbier de Séville, où j'étais là quand même, ah, quelle prouesse extraordinaire.
Ouais, ça va 5 minutes, quoi.
Voilà, c'est ça.
On est d'accord.
Mais mine de rien, c'était encore de l'immobilier. Et là, on a à nouveau donc cette maison. Alors, ne le prenez pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il arrive quand même à trouver une issue à la contingence de la porte. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué depuis qu'on est petit qu'une porte doit être ouverte ou fermée. Et ben là, non. Elle est et ouverte et fermée, ou les deux en même temps, ou rien. C'est très bizarre, parce qu'en fait, il y a les portes, mais il n'y a pas les chambres. Donc, ils se passent leur temps à les ouvrir, mais elles sont déjà ouvertes. Enfin, c'est très étonnant. Donc, voilà. À part ça, moi, j'ai pas eu le coup de cœur, le petit coup de cœur de Lucille Comeau à l'ouverture quand j'ai vu la scénographie. Plutôt au contraire, ni même la deuxième partie quand tout part en blanc et noir. Par contre, j'ai trouvé relativement intéressant les incrustations vidéo, dans la mesure où on les attendait, on attendait de la vidéo performative chez Ivo Vanov, qu'on n'a pas vu. Et en fait, on n'attendait rien en performatif à Don Pasquale. On se retrouve avec cette espèce de bardo massé sophistiqué, d'installation, d'un écran vert qui part une fois en coulisses, qui revient, différents fonds d'écran qui passent sur une toile qui descend, elle qui est incrustée, mais en même temps qui est très, on va dire, très sophistiquement incrustée.
Ce qui aurait été bien, c'est qu'on ne voit pas l'écran vert, quand même.
Ah, mais c'est pour montrer, pour expliquer.
Ouais.
Voilà. Mais d'un côté, il y a tellement de couleurs que pourquoi pas un écran vert, par ailleurs, hein, ouais. sur ce plateau. Et donc, oui, donc j'ai trouvé ça plutôt bien dans le sens de la mise en scène que les protagonistes,
jouent ce jeu-là.
Ouais, montent autour de Don Pasquale et que du coup, lui s'engouffre là-dedans et prenne ça et le porte à bout de bras en disant voilà, c'est le seul truc qui m'intéresse. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais la scénographie m'a pas vraiment plu.
Avant de poursuivre un instant encore sur la musique, Boris Pinault, des commentaires ?
Oui, un mot de Quentin Delorme. Une nouvelle production délicieuse grâce à une mise en scène barrée, mais très intelligente. Un plateau vocal en or et une direction convaincante.
Un ami de Miguel Etou. Hein. Bon.
Et belle entrée au répertoire de l'Opéra de Paris de cet enthousiasmant opéra pouf de Donizetti, écrit Romain. J'ai beaucoup aimé la mise en scène et le travail de direction d'acteur.
Bon, bah écoutez, il y a des gens qui sont heureux et c'est important. D'ailleurs... Bon, dans la captation, on les entend, mais le public a réagi comment quand vous étiez dans la salle à
très
cette
bien.
Production
très bien.
Très bien. Très bien.
Bon, non, mais ça.
Moi, ça ne me donne pas. mais parce que ce n'est pas du tout catastrophique.
Enfin, oui, alors musicalement, dire, quand même.
Oui, alors.
Enfin, quand je disais poussif, tout à l'heure, c'était gentil quand même, non, Lucille Como?
Oui, bon, c'est le problème, c'est que Don Pasquale, qui est quasiment omniprésent dans cet ouvrage, est donc interprété par Michele Pertusi, qui est une bonne basse, mais qui, à mon avis, n'est pas une basse de ce type d'opéra bouffe, en fait. Il manque d'effet dans la voix et de brillant et de possibilités comiques, je crois. Vraiment. Pas du tout, pour le coup, l'acteur, parce que je le trouve pas mauvais. Mais dans la voix, ça sent l'opéra seria, et moi, ça me gêne un peu. Et surtout, il est un peu mis en balance avec Florian Sempé, qui, pour le coup, lui, est tellement génial, a une voix qui est tellement parfaite pour ce type de rôle, que les deux, du coup, c'est un petit peu embêtant. Et puis, Laurence Brownlee, le ténor, qui est pourtant un très bon ténor, alors là, je comprends pas. Moi, je trouve dans la captation que c'est catastrophique, c'est limite faux, c'est un peu voix blanche, on l'entend mal, enfin vraiment je sais pas ce qui se passe, alors ou ça lui convient pas du tout comme type de rôle, ou il a un petit problème avec sa voix, mais je l'ai entendu bien bien meilleur que ça, donc là je...
Guillaume Thion,
j'ai pas de
sur ce plateau vocal
tout à fait d'accord, mais je trouve que effectivement Florian Sempé est là très souvent, Nadine Sierra, enfin c'est dommage, elle a un rôle où on la voit, elle n'est pas assez mise en valeur. Elle est mise en valeur.
Scéniquement,
esthétiquement, costumièrement, tout ce qu'on veut. Peut-être même trop. Mais elle n'a pas la possibilité de faire ce que pouvait faire, par exemple, Pretty Hende dans l'autre Donizetti d'il y a 2 ans, Lucia di Lammermoor.
C'est pas la même partition.
Non, c'est pas la même partition, exactement. Mais pourtant, c'est du bel canto. Les deux ont été lancés par Petitis, qui est le coach vocal, enfin, le directeur de casting plutôt, et qui a un grand plan de carrière pour les deux, et les trois avec Raja Vedishvili. Mais là, je trouve qu'à chaque fois, pour Nadine Sierra, il manque un petit quelque chose. Elle était là dans Elio Gabalo, qui était un mauvais spectacle, avec un rôle qui n'était pas extraordinaire pour elle. Elle a repris après Rigoletto, mais elle ne l'a pas créé. Mmh. Et là, dans ce Don Pasquale, elle est superbe, mais il lui manque un petit quelque chose.
Taïn Pasco, pour finir.
Moi, je pense qu'elle est victime de la mise en scène, parce qu'il essaye tellement d'en faire une femme objet. Enfin, je ne veux pas jouer à ma chienne de garde, mais c'est vraiment agaçant, quoi, cette manière dont il a de jouer sur son sexe à pile en permanence, que ça ne lui donne pas... Elle ne se pose pas, elle est en train de se dandiner sans arrêt, de musarder, de faire la coquette. Elle peut même pas incarner son rôle, je trouve. Mais sinon, là, moi, j'ai trouvé quand même que Florian Sempé était formidable. C'est lui qui dirige l'action. D'ailleurs, c'est même dans la mise en scène, parce que là aussi, ils ont rajouté une fin qui n'est pas dans le livret. Donc,
on laisse la surprise.
On laisse la surprise.
Bon. Oui, difficile comment pour
non,
finir.
Non, mais juste pour la, sur la charge érotique d'un personnage, ça peut être, on va en parler dans les petites niches, c'est pas inintéressant de faire la comparaison, parce que c'est possible tout à fait de surinvestir la charge
Barbara
érotique
Hannigan qui fait loulou,
d'un personnage.
Ça marche,
hein. Mais c'est pas seulement... Oui, voilà.
Ça marche très
en
bien.
En fait, là, c'est juste que ça n'a pas de sens du point de vue de l'œuvre et que ce n'est pas la peine de le faire.
Oui, mais vraiment bon, ajouter pas, quelque chose sur quelque chose qui était déjà très puissant.
Le costume.
Bon, vous pouvez découvrir cette production de Don Pasquale jusqu'au 12 juillet au Palais Garnier, et puis vous pouvez la découvrir en ligne sur le site de Culture Box jusqu'au 18 septembre.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et le troisième spectacle au sommaire de cette dispute musique, ce sont les Petites Michues, la compagnie Les Brigands qui retrouve son écrin de prédilection, le théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, pour la plus grande joie de ses nombreux aficionados. 120 ans après la création de l'œuvre d'André Messager, les Petites Michues sont donc de retour à Paris. Une comédie qui a séduit jusqu'à Broadway, ai-je lu. Il faut dire que là, on ne fait pas dans la demi-mesure non plus. Écoutons un extrait de cette production. Voilà un petit extrait des Petites Michues à l'affiche de l'Athénée. Tiens, c'est Fabienne Passeau qui commence à nous en parler.
Moi, j'adore l'opérette, j'aime bien Messager, à qui on doit quand même des œuvres, Véronique, L'Amour masqué avec Sacha Guitry. Sacha Guitry lui avait commandé ça pour Yvonne Printemps. Donc, la musique, c'était aussi un auteur, un compositeur qui n'était pas, qui, qui, qui n'était pas anodin. Hein. Il était l'ami de Saint-Saëns, il avait dirigé le Péléas, je crois, la création en 1902. C'était un grand chef d'orchestre reconnu. Il a fait des tas d'œuvres ravissantes, charmantes, légères, comme ça. Là, je dois dire que quand même, j'ai eu des petits doutes parce que j'ai trouvé ça long. Ça se serait arrêté à l'entracte, j'aurais dit c'est délicieux, c'est charmant. Là, j'ai trouvé que c'était quand même écrit un peu dans la longueur et qu'il y avait quelques mélodies charmantes et délicieuses. Mais le parti pris de la mise en scène, s'il y a des tas d'idées rigolotes, notamment l'action, elle est censée se passer en 1793, au lendemain de la Révolution, en pleine terreur, où un aristocrate fuit, est condamné à fuir et confie in extremis son bébé à ses domestiques à peu près, et lesquels domestiques, dont l'un n'est pas très éveillé, vont confondre avec leur propre bébé la fille de l'aristocrate. Donc c'est toute l'intrigue de la pièce, parce que l'aristocrate, 15 ans plus tard, voudra récupérer son enfant, enfin bref. Et c'est monté dans les années 70, donc c'est plutôt rigolo, un côté acidulé, demoiselle de Rochefort, mais il y a quand même une certaine vulgarité, là encore, je trouve, pour moi, dans la mise en scène, notamment dans le traitement des jeunes filles. Il y en a une, les voix sont charmantes, tout ça, mais c'est un peu exagéré. Et ça m'a gâché mon plaisir.
Guillaume Thion.
Oui.
Aspiration.
Aspiration, oui. Bah, tout à fait. Je suis, effectivement, j'abonde. Mais moi, ce que j'ai aimé, justement, dans ce spectacle, c'est les parties qui sont finalement moins expressément comiques. C'est-à-dire que, bon, après c'est une opérette, à gros traits. Donc, musicalement, effectivement, des petits moments délicieux. Il y a quand même beaucoup de caisses claires. C'est zim-boum, zim-boum, pouet-pouet. Ça va très bien aux brigands, qui le font, je trouve, très bien, je trouve que c'est vraiment un de leurs très bons spectacles. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est d'abord le personnage du militaire, donc l'ancien marquis qui est devenu militaire, qui est traité au premier degré de manière extrêmement violente et qui, du coup, vraiment change avec la figure du militaire qu'on a l'habitude d'avoir, qui ou alors est trop cassante ou alors est une espèce de chiffre-molle, enfin de quelqu'un de trop d'embourgeoisé. Là, au contraire, et en plus, c'est par ses yeux qu'on rentre dans le spectacle, parce qu'on découvre à peu près le poteau rose en même temps que lui, et donc on se met un peu à sa place. Et en plus, il a une espèce de silhouette macronienne qui est oui, très étonnante quand il arrive, avec son képi et sa petite licorne en décoration. Et je trouve que ça, c'est assez réussi d'avoir joué cette carte-là, parce que c'est vraiment lui qui est le plus vitupérant. Et en fait, ses accès un peu violents sont bien plus forts que les numéros de comiques traditionnels qu'il y a vraiment tout au long du spectacle, qui, à mon avis, beaucoup plus dont la qualité est beaucoup plus dans le parler que dans le chanter. Et ensuite, il y a justement ces deux jumelles. Je trouve que ce qui est très bien, justement, c'est qu'au début, tout comme ce baiser qu'elles se donnent, elles sont vraiment fusionnelles. Et en fait, plus l'histoire avance, plus chacune se trouve une identité. Parce que finalement, elles découvrent qu'elles ne sont pas sœurs, mais qu'elles ont été mélangées. Une appartient au Michu, l'autre appartient au Marquis, mais on ne sait pas laquelle. Et en fait, voilà, chacune est finalement obligée de se trouver une identité et donc de creuser ce qu'on avait en germe au début, c'est-à-dire une qui va être un peu trop joyeuse, un peu trop exubérante, et l'autre qui va être un peu trop discrète, un peu trop renfermée. Mais mine de rien, ça se joue bien en filigrane de la comédie qui avance, on va dire, à très rapide et un peu lourd.
Lucille Como, je vous vois faire plein de mimiques, mais je ne sais pas en fait ce que vous allez dire.
Non, moi ça m'a beaucoup, beaucoup plu du début à la fin. J'ai pas du tout trouvé ça trop long. J'aurais pu revoir, je pense, même dans la foulée encore un peu. Je trouve que le militaire est extrêmement drôle, au même titre que les autres personnages. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à OSS 117 et je trouve que de manière générale...
Je comprends mieux pourquoi vous avez adoré, voilà. Lucille.
Mais non, mais il y a quand même pas du tout. Moi, ça m'a fait penser à de la comédie, à du cinéma. Enfin bon, vous avez cité Les Demoiselles de Rochefort. Il y a ça, mais c'est vraiment en version potache. Il faut quand même dire que cette pièce, vous le dites à mots doux, Guillaume Thion, mais en gros, c'est la confirmation d'un ordre social strict où la poissonnière reste poissonnière et préfère le poissonnier et l'aristocrate se reconnaît en aristocrate et préfère l'aristocrate. C'est quand même incroyable. À partir du moment où on entrevoit, ça vient assez vite, ce retournement-là, puisque ça pourrait ne pas se passer comme ça, il y a un niveau de réaction quand même, au sens propre, dans cette œuvre-là. Ça me faisait penser, j'étais avec Boris Pinault hier soir, qui me disait, mais en fait, c'est les tuches. Et en effet, il y a quelque chose, on voit ce que sont les racines de la grosse comédie franchouillarde, hyper de droite. Et moi, je trouve ça réjouissant, parce que je pense qu'il y a une ironie, justement, de la Compagnie des Brigands, là-dessus, qui réussissent à créer du léger à partir de cette trame, qui est quand même ultra lourde. Moi, le décor me plaît beaucoup. C'est un décor, en effet, un petit peu années 70, mais ça pourrait aussi être un peu japonisant, avec des pans de murs un petit peu arrondis, des lumières qui se projettent très pop. Des fois, c'est rose, des fois, c'est bleu, des fois, c'est violet. Et puis, un système d'illustration, un peu bande dessinée, qui s'affiche en fond de scène, qui fonctionne très bien. Non, moi, j'aime beaucoup. Et alors, j'adore Blanche-Marie, ou Marie-Blanche, je sais pas. Non, Blanche-Marie, donc Anne-Aurore Cochet, je crois que c'est celle sur laquelle vous aviez des doutes, Fabienne, qui est la poissonnière, celle qui restera poissonnière.
Oui, la poissonnière, mais dès le début, on devine c'est elle.
Mais c'est ça,
elle en fait tellement des clins d'œil, on a l'impression qu'elle
mange du chewing-gum. Ah, mais elle joue, en fait, elle danse, elle joue comme une star de R&B. Enfin, elle est géniale.
Et c'est Violette
Bachy. Ce côté bon sang, ne peut mentir que la fille de poissonnière reste poissonnière. Oui, mais alors ça, je trouve ça tellement... Moi, j'ai pas vu d'ironie là-dedans.
Ah, moi, je pense que si.
Vous avez vu un
bon degré. Si, dans la transposition, dans les années 70, je pense que ça fait décalage, c'est pas possible, c'est tellement énorme, justement, que je trouve le côté bande dessinée et tout, moi ça me rend la chose extrêmement sympathique.
Et musicalement, ça vous a intéressé aussi,
tout à fait. Bon, en effet, chanter, c'est inégal. Il y en a qui chantent très bien, qui ont de vraies voix lyriques, et du coup, bon, ils chantent, ils se posent avec leur voix lyrique, c'est le cas des filles. Bon, après, il y a par exemple Damien Bigourdan, qui est pas un grand chanteur, je le trouve jamais formidable dans le chant, mais qui rattrape par son investissement dans la troupe, l'investissement du corps. Là, il joue Monsieur Michu, il est extrêmement drôle quand même, il faut le dire. Donc moi je trouve que l'ensemble en fait fonctionne très bien, même s'il y a des petites faiblesses. Pareil à l'orchestre, parfois dans les airs un peu rapides, dans les choses d'ensemble, ça pêche un peu. Mais franchement, il y a une telle énergie, ça fonctionne quand même très bien.
Dubitatif, Fabienne Pascaud, hein.
Bon, moi j'ai été enchantée la première heure, après j'avais envie de tout casser.
Ah, c'est pas mal, ça vous fait réagir au moins, Guillaume Thion.
Moi j'ai préféré la deuxième heure.
Ah bon, et Lucille tout, comme ça au moins on a une totalité. Et la morale est aussi réactionnaire que l'histoire que vous venez de décrire.
Ah bah oui, les moutons sont bien gardés et poissonniers aussi. C'est vraiment, c'est
chacun
terrible.
Retombe dans sa classe, quoi.
C'est horrible.
Parce que j'ai pas encore vu cette production, mais vous me donnez envie quand même.
Bah c'est la vie est un long fleuve tranquille en fait.
Alors c'est l'étude, la vie est un long fleuve tranquille.
C'est la même histoire.
C'est le scénario qui veut ça.
C'est cette même histoire, voilà.
Bon.
C'est la France.
C'est la France. Et c'est le retour des brigands à l'Athénée, théâtre Louis Jouvet. Alors, c'est pas sur Culture Box. Mais que fait Culture Box? Je ne sais pas. Il devrait peut-être aller tourner là-bas. Petite Michu qui avait été créée, on l'a pas dit. Hein, c'était au théâtre Angers-Nantes.
Oui, ah oui,
semble-t-il. Donc, il faut quand même le dire parce que voilà, c'est la suite de cette tournée, si on peut dire. En ce moment, au théâtre de l'Athénée jusqu'au 29 juin, Les Petites Michus d'André Messager, dirigées par Pierre Dumousseau. La Compagnie des Brigands, mise en scène Rémi Barchet. Notez aussi qu'on pourra voir, alors dans assez longtemps, ce spectacle, les 30 et 31 décembre au théâtre de Caen. Et puis les 19 et 20 janvier 2019, ce sera à l'Opéra de Reims qu'on pourra aller voir Les Petites Michus. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure de retrouver Camille André qui, après avoir vaillamment live tweeté, vient nous rejoindre pour cette séquence du jeu de la dispute que vous attendez tous. D'abord, un retour sur le jeu d'hier soir, Camille, un rappel de la question et donc sa réponse, ce sera bien.
Eh bien, de quel événement culturel le film Have a Nice Day a-t-il été déprogrammé à la suite de pressions de la part des autorités chinoises? Et il s'agit du Festival international du film d'animation d'Annecy en 2017.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour les expositions Coder le Monde et Ryoji Ikeda à l'occasion de l'événement Mutation Création 2 à voir au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 27 août. Quelle est la question, Camille?
Quel est le titre du premier album solo de Ryoji Ikeda?
Et votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions, vous abonner au podcast, ce qui est encore mieux. Vous pouvez préparer vos commentaires pour l'émission de demain, commentaires à poster soit sur la page Facebook, La Dispute FC, dès maintenant, ou en suivant le compte Twitter, Dispute FC. Demain, donc, notre programme à 19h, Dispute Cinéma. Nous serons en direct, en public, comme tous les vendredis, en tout cas jusqu'à la semaine prochaine, avant l'interruption estivale. Nous sommes au bar Le Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, en compagnie demain de Charlotte Garçon, Muriel Joudet et Philippe Azoulay. À notre affiche À genoux, les gars d'Antoine Desrosières, How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell et Bécassine de Bruno Podalides.